Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de la lutte, que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast
sur le-tamis.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
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 Merci de nous écouter sur Radio Campus 90.8 au sein de l'émission Micro-ondes, l'émission qui vous tient à contre-courant. Alors, je suis ravi de vous retrouver. Autour de cette table, nous avons des invités. Mais avant tout, à la technique, nous avons Baptiste et Jeanne. Voilà. Et à ma gauche, comme copilote de cette émission, Samia.
Bonjour.
Dans notre idée de toujours vous tenir au courant et informer de ce qui se passe en France et dans le monde et vous dire ce qui ne se dit pas ailleurs, nous avons décidé de traiter d'un cas brûlant, l'islamophobie. L'islamophobie, comme vous le savez, est un fléau à l'international comme au national. La lutte s'organise. Et pour lutter contre le formatage des cerveaux et la manière dont cet État s'empare de l'intellect des uns et des autres, nous avons décidé de vous faire une émission en deux temps autour de l'islamophobie. Donc voilà, donc la première est aujourd'hui, la seconde sera le 14 et vous aurez une rediffusion le 21 pour la première et le 28 pour la deuxième. Voilà, sans plus tarder, nous allons vous présenter nos invités.
Juste une petite précision, n'ayez pas peur, tout ce qui sera évoqué dedans, les contenus, ce genre de choses, vous pourrez les retrouver sur le site de Radio Campus Grenoble avec le podcast. Voilà, dans la description du podcast.
Merci Samia pour ce rappel.
Donc
nous avons à notre table Philippe Robin.
Bonjour, salut.
Voilà, un militant de longue date aussi. Nous avons Pierre Didier Chichiapea.
Bonjour.
Enchanté de t'avoir.
Merci.
À l'émission, comme merci. Philippe Robin. Et comme copilote, troisième copilote, nous aurons Yvon.
Bonjour.
Voilà. Les présentations sont faites. Nous allons enchaîner avec, en introduction, un petit audio de Saïd Bouamama, qui est le fondateur d'un collectif militant qui s'appelle le FUIQP, Front Uni des Émigrations et des Quartiers Populaires. C'est un sociologue aussi. Et qui nous rappelle que l'islamophobie, dont nous allons parler au cours de ces deux émissions, n'est pas un hasard, n'est pas un accident de l'histoire, mais que ça s'inscrit dans une mutation du racisme. Et je vous invite donc à l'écouter.
Comprendre la question du racisme aujourd'hui suppose qu'on aille relire un auteur comme Frantz Fanon, qui est un auteur incontournable pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Comme disait Abdelmalek Sayad à propos de l'immigration a des âges, et bien Fanon nous disait le racisme a des âges. Il y a, nous dit-il, au moins deux âges du racisme qu'il a repéré et qu'il a théorisé. Le premier, qui est d'abord de se poser la question de la naissance du racisme. Une idée courante, une idée habituellement diffusée dans nos médias, diffusée dans la culture politique, c'est de nous dire que le racisme a toujours existé, qu'il serait dans la nature humaine. Frantz Fanon commence par rompre le coup à cette idée erronée. Non, le racisme n'a pas toujours existé. Non, il n'est pas dans la nature humaine. Le racisme est daté. On peut le dater du moment où une société précise a eu besoin, pour justifier des actes de violence, pour justifier des actes de pillage, a eu besoin de hiérarchiser l'humanité en différentes parties. Et donc on a hiérarchisé entre l'Europe qui était la race supérieure et d'autres qui étaient des races inférieures. C'est donc le capitalisme qui donne naissance au racisme. Ensuite, nous dit Frantz Fanon, ce premier âge, né avec le capitalisme, il a pris une forme qui est le racisme biologique. C'est-à-dire d'expliquer la hiérarchisation des races au travers de critères biologiques. La race blanche aurait des caractéristiques biologiques qui la sépareraient de la race noire, qui la sépareraient de la race asiatique, etc. Et cela, ça va durer tant qu'ils ont pu durer avec cette théorisation. Sauf que la Seconde Guerre mondiale va venir montrer les conséquences de ce type de théorisation. Et la découverte des horreurs de la Seconde Guerre mondiale va rendre cette théorie non crédible, va la délégitimer, va la rendre inutilisable. Et là, Frantz Fanon nous dit, lorsqu'une théorie de la domination devient inutilisable, eh bien, la domination ne disparaît pas, simplement, on change de théorie de la domination. Et là, le racisme biologique va donc se muter, il va prendre un nouveau visage, qui est le visage du racisme culturaliste, nous dit Frantz Fanon. Désormais, on ne dira pas que les blancs sont supérieurs aux noirs au niveau biologique, mais on dira que les cultures d'Afrique sont inférieures aux cultures européennes. Et donc la race n'est plus attribuée au biologique, mais elle va être attribuée désormais aux dimensions culturelles. Ça va fonctionner pendant tout le XXe siècle. Et puis, on va s'apercevoir à la fin du XXe siècle qu'avec les progrès de l'ethnologie, mais aussi avec les mouvements sociaux venant des premiers concernés, c'est-à-dire ici en Europe des descendants de l'immigration, eh bien, on va s'apercevoir que ça n'est plus efficace, que ça ne fonctionne plus, et que l'exigence d'égalité entre toutes les cultures est affirmée par de plus en plus de gens. Alors on va basculer vers autre chose, et ça sera le troisième âge du racisme. Et ce troisième âge du racisme, c'est plus d'attribuer aux cultures, c'est de ne plus attribuer au biologique la hiérarchisation, c'est de l'attribuer aux religieux. Nous aurions une religion qui aurait une spécificité qui la distinguerait de toutes les religions, c'est qu'elle ne serait pas le résultat de l'histoire. Elle serait homogène, contrairement aux autres religions, elle serait statique, contrairement aux autres religions qui seraient dynamiques, et donc inévitablement elle porterait des traces du passé, elle porterait des traces de la tradition, des traces de la réaction. Eh bien, en construisant l'islam comme étant cette religion à part, on produit de l'islamophobie qui n'est rien d'autre que le troisième âge du racisme.
Voilà, Saïd Bouamama qui nous a rappelé les trois âges du racisme. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive, elle se veut aussi synthétique. Donc nous allons, au sein de cette émission, tâcher de reprendre ces trois âges et de développer ces idées.
Alors oui, je voulais vous proposer de reprendre, enfin de vous donner quelques repères historiques pour développer un peu plus pour donner un aspect un peu plus concret à ce que développe Saïd Bouamama dans l'extrait qu'on vient d'écouter. Alors du coup, on va commencer avec l'Antiquité et Aristote qui nous dit dans La Politique chapitre 5 « Ceux qui sont aussi éloignés des hommes libres que le corps l'est de l'homme ou la bête de l'homme, entre parenthèses, et sont ainsi faits, dont l'activité consiste à se servir de leur corps et dont c'est le meilleur parti que l'on puisse tirer », fermez la parenthèse, ceux-là sont par nature des esclaves. Et pour eux, être commandé par un maître est une bonne chose si ce que nous avons dit plus haut est vrai. Est en effet esclave par nature celui qui est destiné à être à un autre, et entre parenthèses, et c'est pourquoi il est à un autre, et qui n'a de raison en partage que dans la mesure où il perçoit les autres, mais il la perçoit chez les autres, mais ne la possède pas lui-même. Donc là, on voit que pour lui et les Grecs, les critères qui permettent de dire qu'une personne est inférieure à une autre et peut être esclavagisée sont une évaluation subjective de l'intelligence et des mœurs jugées plus ou moins barbares. On fait un saut dans le temps pour s'arrêter sur la colonisation des Amériques. Au XVIe siècle, le moine dominicain Bartolomé de las Casas et le philosophe et homme d'études Juan Guinés de Sepúlveda débattront longuement par lettre interposée sur le fait de savoir si les natifs américains sont humains ou non et s'ils ont une âme ou non. L'enjeu ? S'ils ne sont pas jugés humains et ayant une âme, alors leur mise en esclavage et leur massacre peut continuer au KLM. Sauf que le pape Paul III tranchera en 1537 que les natifs ont une âme et sera en faveur d'un adoucissement de leur traitement. Mais comme il est sympa et qu'il ne veut pas que les colons soient lésés, il recommande d'esclavagiser à la place les Africains jugés moins humains que les natifs américains pour exploiter les nouvelles richesses de ce nouveau continent. Là encore, l'idée sous-jacente est d'avoir une main-d'œuvre pas chère au nom de critères théologiques et de mœurs. L'exploitation du continent africain est lancée et ce sont 14 millions de personnes, toutes traites confondues, qui mourront à cause de l'esclavage. On arrive ensuite au siècle des Lumières et du rationalisme, où on voit des naturalistes tels que Buffon et Linné qui étudient les plantes et les animaux en vue de les classer par espèce et par race. Le mot « race » vient de l'italien « razza » qui veut dire « espèce de gens » ou du bas latin « ratio », espèces d'animaux ou de fruits. La phérèse de génération, famille, descendance, espèce. La race est d'abord le filiage, la famille. Par exemple, dans l'espèce bovine, il y a la race des Normandes. Cette classification du vivant va chercher on va chercher à le reporter aussi sur les humains et de ainsi hiérarchiser rationnellement les différents êtres. Donc ensuite, on fait un nouveau bond dans le temps pour arriver à la première abolition de l'esclavage en France. De nombreux soulèvements dans les territoires d'outre-mer, inspirés par la révolution en métropole et la déclaration des droits de l'homme, mèneront à ce que l'esclavage soit aboli en février 1795 pour les territoires d'outre-mer, mais seulement pour les territoires d'outre-mer. Or, Napoléon, qui se déclare empereur de tous les territoires français, ne va pas apprécier ces conflits pour l'émancipation et l'indépendance et va rétablir l'esclavage en mai 1802. L'esclavage sera à nouveau aboli en 1848 grâce au soulèvement qu'il y aura dans les colonies et aussi au travail d'hommes tels que Victor Schœlcher. Ce dernier se battra pour l'abolition de l'esclavage, mais aussi pour une école gratuite, laïque et obligatoire pour toutes ces personnes fraîchement affranchies. Donc, il ne voulait pas de l'esclavage, mais était quand même colonialiste. En effet, il croyait fermement en les valeurs de la République et les portait comme supérieures à tout autre. Quelle ironie! L'homme noir étant considéré comme inférieur et exploitable au nom des principes religieux, puis libéré et éduqué au nom de principes républicains. Mais la fin de l'esclavage en 1848 va quand même s'accompagner d'une compensation financière pour le manque à gagner en productivité envers les grands blancs, c'est comme ça qu'on appelait les propriétaires terriens dans les territoires d'outre-mer. Aux États-Unis, l'abolition de l'esclavage arrive un peu plus tard, en mai 1865. Lincoln s'était refusé tout d'abord à abolir l'esclavage, car les esclavagistes du Sud redoutaient des retombées économiques. La suppression de ce système provoquerait l'effondrement de l'économie du Sud, que les Noirs sont les seuls à pouvoir travailler dans les champs sous de telles températures, leur émancipation les plongerait dans la misère et qu'il incombait à l'homme blanc. Zut, j'ai encore raté une page. Et qu'il incombait à l'homme blanc supérieur aux autres races de mener sa mission divine de domination. Si l'abolition est mise en application en 1865, il n'empêche que va persister pendant longtemps l'apartheid aux États-Unis et notamment dans les pays du Sud, qui va, et du coup ça va pas être la joie non plus pour les gens. Donc en fait, du 17e au 19e siècle, plusieurs raisons d'esclavagiser et d'être raciste cohabitent. On part de l'idée d'une mission évangélique visant à débarbariser les territoires colonisés à travers le monde, en vertu de la malédiction de Cham, c'est un mythe biblique pour les personnes qui ne le savent pas, en vertu d'un dieu unique par opposition au païanisme, etc., pour aller ensuite vers l'idée qu'en fait les autres peuples sont jugés moins civilisés et qu'il faut leur apporter la modernité, des lumières notamment. Ainsi, Jules Ferry, qui est le père de l'école laïque gratuite et obligatoire, pouvait dire ceci en 1885. « Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Ces devoirs ont souvent été méconnus dans l'histoire des siècles précédents, et certainement quand les soldats et les explorateurs espagnols introduisaient l'esclavage dans l'Amérique centrale, ils n'accomplissaient pas leur devoir d'hommes de race supérieure. Mais de nos jours, je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec largeur, grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de civilisation. En effet, les nations européennes se seront partagées l'Afrique en traçant des frontières à la règle et n'auront jamais cessé depuis l'exploitation de ce continent. Voilà. Donc c'est pas du tout exhaustif, il y a encore des tonnes d'autres choses et bien sûr toutes ces choses ne se sont pas faites sans des résistances. Et voilà.
Merci. Merci Samia. Oui, c'est assez dur à entendre. Merci d'avoir fait cette synthèse. Bien évidemment, en quelques minutes d'émission, nous n'aurons pas le temps d'être exhaustive. Ce sera à vous de faire vos recherches. Nous allons passer au deuxième temps de ce racisme, le racisme culturaliste, l'époque de la colonisation. Et faire un raccourci avec l'arrivée des immigrés africains et aussi du Nord-Afrique, Afrique maghreb et subsaharienne, en France. Avant d'entrer sur cette thématique-là, je voudrais juste faire un rappel, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que chaque migration en France, chaque vague migratoire en France subit de plein fouet la méfiance et la haine des autochtones, à savoir la vague migratoire italienne, la vague migratoire polonaise, etc. Effectivement, les Polonais, les Italiens ont subi beaucoup de violence à l'époque où ils sont arrivés en masse en France, mais ça n'a duré qu'une génération. Au bout d'une génération, la génération suivante était intégrée et il n'y avait plus de question de haine ou de racisme à leur endroit. Il y a une singularité pour les vagues migratoires qui viennent des anciennes colonies, c'est ce dont nous allons parler maintenant avec le racisme culturaliste, avec, dans les années 70, la migration des Arabes et des Noirs en France, qui subissaient à l'époque un racisme lié à l'origine. On les traitait d'Arabes envahisseurs, de bicots, de bougnoules, etc., etc. L'idée d'invasion arabe. Et voilà, j'invite nos invités à enchaîner, s'ils ont envie de rebondir sur cette époque, comment eux l'ont subi, comment ils se sont organisés pour lutter aussi contre cette haine à leur endroit.
Ouais, je prends Pierre la Didier, parole, peut-être. Je vole la parole. Pierre Didier, vas-y.
Ah, vas-y. Comme tu veux.
Ouais, merci pour l'introduction, merci pour l'invitation en tout cas, de faire des émissions de résistance. Au moins, il n'y en a plus beaucoup à la télé, je ne sais pas s'il y en a beaucoup à la radio non plus, mais en tout cas, voilà, on voit la une. Moi, cette intro m'a fait rappeler deux choses anecdotiques de ma famille, en fait. Moi, Philippe Robin, non racisé, on va dire. C'est que mon père s'est marié avec ma mère, bah, comme c'est classique. Et ma mère étant italienne, en fait. Et donc, je me rappelle avoir vu les photos et les récits, comme quoi au mariage, en fait, il y avait les Français d'un côté de la salle et les Italiens de l'autre côté de la salle. Et c'était, bon, ben, on parle de 1960, quoi, 1965, par là. 1965. Donc, et les Italiens, effectivement, c'était les macaronis. On les appelait les macaronis, comme on a appelé plus tard les melons, les bicots, etc., pour les maghrébins. Et c'est un grand paradoxe, parce que et c'est là qu'on rentre dans la sociologie, en fait, je pense. C'est que mon grand-père, lui-même, qui faisait ce racisme social contre les Italiens, ça aurait été des Polonais, peut-être qu'il aurait réagi pareil, des Espagnols exactement pareil. Exactement. Et en 40, ils sauvaient des enfants juifs ou des familles ou des résistants en les faisant passer dans le Vercors. Voilà. Et 15 ans plus tard, il était au Maghreb, il tenait une ferme au Maroc, pas en Algérie, mais au Maroc. Et bon, il faisait travailler des Marocains quoi, dans une ferme française. Donc d'un côté, on a une personne qui n'a pas eu le bénéfice de, on va dire, si on va théoriser idéalement le bénéfice de l'école de la République, c'est-à-dire l'instruction, la culture possible, etc., l'émancipation culturelle, puisqu'il est resté à un niveau très, littéralement très inférieur, on va dire, et donc qui suit le mouvement social, en fait, tout simplement. Il suit le mouvement social. En 40, il est résistant parce qu'il est en dessous de la barrière hein, de Vichy. S'il avait été au-dessus, peut-être qu'il aurait été collabo. Juste parce qu'on suit un mouvement social. Et je pense que ça rejoint un peu les différentes étapes de ce racisme, biologique et culturel et pourquoi pas religieux. Je pense qu'il y a un effet de mode, entre guillemets. Il y a une sociologie, et il y a un air du temps et les gens sont pris dans cet air du temps. Et bien sûr, sur une notion qu'on pourra peut-être aborder aussi, c'est de la peur naturelle à la peur entretenue. Voilà, de la méfiance naturelle à la méfiance entretenue. Comment on va amener un peuple, hein, quand on rencontre quelqu'un, on peut avoir effectivement une méfiance, on a une culture en face, on a quelque chose de tout à fait différent, on peut avoir une méfiance, pourquoi pas, admettons humainement, tout simplement. Et puis on se dit, mais comment les médias, la politique, la société entretient cette peur, ou comment elle fait pas en sorte, par l'éducation, par la culture, de ne pas se méfier, hein, comment on peut être des vrais humains et puis accueillir l'autre tel qu'il est, etc. Ça, un autre débat. Mais voilà, c'était un peu une théorisation à partir de ce qui a été fait sur des exemples, mais ce qui a été dit. Mais Pierre, vas-y, je te laisse.
Oui, je prends la suite. Ouais. Oui, je voudrais vraiment merci pour un peu cette plongée historique. par rapport à ces questions-là, parce qu'effectivement, je trouve aussi qu'elles plongent leurs racines, comme l'a dit Saïd Bouamama, dans des temps très, très, très anciens. Moi, j'ai deux remarques à faire. C'est que, en termes d'observation, je constate que l'idéologie, enfin la construction d'une idéologie de la supériorité raciale, elle va de pair avec une démarche de colonisation. Donc la démarche de colonisation, c'est une démarche d'appropriation, de destruction, de prédation des biens, des territoires qui ne vous appartiennent pas. Et que vous appropriez pour cumuler, pour augmenter l'accumulation des biens et des capitaux. Donc pour moi, ça va de pair avec l'histoire du capitalisme, fondamentalement. Et on le voit, bon, ça a été dit, je ne reviens pas dessus, hein, sur la colonisation des Amériques, du continent africain, y compris la classification du vivant, où on construit une espèce de hiérarchie des races, entre celles qui seraient supérieures à d'autres, et qui justifie toutes les horreurs que vous avez citées, hein, des génocides, des différents génocides, à l'esclavage et toutes ces horreurs. Mais si on doit se concentrer sur la question culturaliste et donc de l'islamophobie, je pense que c'est quand même intéressant d'aussi souligner le fait que c'est un terme qui apparaît quand même au début du XXe siècle, hein, l'islamophobie. Il a souvent été, enfin moi j'ai un peu suivi les propos de Caroline Forest. Je crois que c'est elle, au début des années 2000, qui réhabilite un peu ce terme, avec une série, enfin avec des intellectuels français, qui conteste en fait la terminologie par rapport à, parce que c'est un mot qui aurait été, selon eux, employé par la révolution iranienne pour obliger les femmes à porter le voile, une obligation du voile. Et donc il y aurait vraiment à la base, à l'origine, une connotation très très négative. Et en fait, ce mot qui a été repris aussi par des hommes politiques. Bon, j'ai en tête moi Manuel Valls, hein, qui s'est fait le chantre de cette politique, en désignant les salafistes comme étant la cinquième colonne par rapport à, donc le danger islamiste dans la société française. Donc pour moi, ça renvoie à tout un côté qui est lié à la discrimination et à l'hostilité, un, de l'islam, deux, des musulmans, et qui amène aussi d'autres dimensions qui ne sont pas que religieuses. Il y a une dimension aussi sociale, une dimension aussi politique, qui enferme et qui réduit les populations supposées appartenir à la communauté musulmane ou qui s'en revendiqueraient, une espèce de vision et d'image hostile potentiellement à la société française et à la République française. Et c'est là où nos générations commencent qui sommes nés en France, ayant grandi en France et ayant été éduqués en France. C'est là où on commence une prise de conscience au début des années 70-80, à vouloir repenser, réagir, se défendre et aussi exprimer notre attachement à la société française. Et j'irai même plus loin que l'attachement, l'amour au pays et contre toutes ces forces hostiles, nostalgiques d'une France qui, de notre point de vue, n'existe plus.
C'est parfait, merci Pierre Didier. Tu parlais de l'époque des années 70, hein, c'est l'époque où il y a eu les travailleurs arabes qui sont venus reconstruire la France à l'époque, c'était la fin des Trente Glorieuses, mais c'était quand même, ils étaient encore là, il y avait les regroupements familiaux, etc. Et on parlait des époques du racisme, on a peu parlé de leur impact. Et moi, j'aimerais bien que tu reviennes, si, dans la mesure de ce que tu veux peu, parler de différents impacts. Moi, je me rappelle bien que ce racisme, il tuait à l'époque. Hein. On avait dans les quartiers des gens qui étaient tués juste sur le principe qu'ils étaient arabes, qui déplaisaient dans le paysage. Et très peu de réactions du politique, et l'obligation d'agir, de réagir, nous incombait. Et donc voilà, et moi j'aimerais que tu reviennes sur cette époque-là, où je sais que toi tu as été un militant de la première heure, et que tu nous racontes un petit peu cette histoire, comment toi tu t'es construit autour de tout ça, et quel a été l'impact de ce racisme ordinaire de l'époque. Il mutera bien évidemment plus tard en islamophobie, mais dans un premier temps, pour un peu respecter les trois temps de Saïd Bouhamama, si tu pouvais revenir sur cette époque.
Oui, effectivement, il y a tout d'un coup, là, je pense à un livre, je m'excuse, mais je vais tout faire pour retrouver le nom de l'auteur, qui a écrit Arabicide au début des années... c'est un auteur italien, un sociologue italien, qui décrivait vraiment d'une façon très très précise tous les mécanismes de crimes à l'encontre des gens d'origine africaine. Quand je dis les gens d'origine africaine, voilà, Fausto Giudice. Voilà, merci, merci Philippe. Merci. Il décrit tout un mécanisme de violence envers les Africains, les Français d'origine africaine. Quand je dis les Français d'origine africaine, j'entends bien sûr les Maghrébins, même si je sais que dans la tradition politique et culturelle, on dissocie les Africains subsahariens, les Maghrébins, etc. Pour moi, c'est un tout, c'est des Africains, ils viennent du continent africain. Et je pense qu'il faut, il faut les aborder comme tels. D'ailleurs, ils ont une histoire. Il y a une histoire qui est très très forte, très très riche entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, qu'on mésestime ou qu'on sous-estime. Bon, je ferme la parenthèse. Et donc, durant les années 70, effectivement, il y a eu beaucoup de crimes racistes venant de gens, la société civile, des violences policières, des violences sociales, et vis-à-vis desquelles... D'ailleurs, ça a donné lieu, ça a été un peu à l'origine de la marche, de ce qu'on a appelé la marche des beurs. Hein, parce que bon, la marche des beurs, qui était en vérité pas la marche des beurs, c'était la marche contre le racisme et pour l'égalité. Donc c'était une marche universelle, mais bon, on a réduit ça au beurre parce que l'origine de ces marches venait des quartiers populaires où il y avait une concentration de gens d'origine africaine, comme vous le savez.
Est-ce que c'était pas aussi pour atomiser et essentialiser un Absolument. Mouvement qui était populaire, qui était humain, et puis pour créer deux mondes, c'est le nous et puis le eux. C'est pas une marche qui est pour nous blancs, c'est une marche qui est pour eux les beurs, quoi.
Tout à fait.
Et on est loin des valeurs humanistes qui sont l'égalité contre le racisme. On refait juste du primitif, quoi. C'est eux et nous, c'est les beurs et nous.
Oui, tout à fait, absolument. Et bon, là, du coup, on est dans le prolongement en fait de l'histoire post-guerre d'Algérie, et où on semble régler des comptes à travers cette histoire tragique, hein, parce que bon, il y a eu beaucoup de morts. Et donc la preuve en est que la marche dite des beurs, qui amène quand même 100 000 personnes à Paris, c'était quelque chose d'inédit, absolument incroyable, que découvrait la société française, c'est-à-dire en son sein, des gens qui contestaient et revendiquaient une égalité de traitement. Et la réponse politique à cette marche a été finalement de donner à la population étrangère la carte de 10 ans, qui était une bonne chose, mais qui n'était pas tout à fait les revendications des manifestants, puisque la revendication, ce n'était pas la reconnaissance ou le renforcement du statut de l'étranger, mais la reconnaissance d'une appartenance égale à la société française et la reconnaissance en tant que citoyen français et l'arrêt des crimes racistes et la mise en place de sanctions par rapport à ces crimes-là. Donc voilà, tout ça, ça nous a amené dans les années 80, dans les années 90. À partir des années 90, il y a eu très régulièrement des révoltes populaires, des révoltes urbaines, qui avaient toujours comme source ces violences policières. où finalement un policier était impliqué dans la mort d'un jeune et où on constatait très régulièrement dans les décisions de justice des peines avec sursis, des décisions de justice, des légitimes défenses, et vraiment des décisions qui avaient rien à voir avec les faits en question. Et donc, petit à petit, les gens se sont organisés, effectivement. Moi, je suis arrivé à cette époque des années 90, et où on a fait des associations, d'abord dans le quartier, ensuite interquartier, ensuite avec des réseaux nationaux, comme le MIB, le Mouvement d'immigration et des banlieues, comme le Collectif Résistance des banlieues, comme le FSQP, le Forum social des quartiers populaires. Comme le FUQP, c'est aussi, le Front uni de l'immigration et des quartiers populaires, qui est en fait une dissociation qui est née du FSQP, mais qui a fait naître, le FUQP, deux, le FCP, Force citoyenne populaire. Donc ce sont des organisations propres à ces quartiers-là pour exprimer leur attachement à la République et le refus de la discrimination. Donc effectivement, c'est des luttes qui ont aussi fait changer la société, notamment, je cite quelques exemples sur le plan du droit. Et il faut savoir que le fait que lors d'une garde à vue dans un commissariat de police, on puisse voir un médecin à la première heure et on puisse voir un avocat également à la première heure, c'est aussi dû à des luttes qu'ont menées les familles et ces organisations-là. Pour qu'une sécurité, un minimum de sécurité soit garantie au sein d'un commissariat de police. Il faut aussi savoir que dans les années 70, il y avait une vente libre des armes à feu en France, dans la société française, hein, et que la marche a aussi fait en sorte qu'il y ait eu un arrêt. On pouvait aller à Carrefour, à Auchan, acheter des armes, des fusils, etc. À l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui.
Heureusement.
Et faut dire aussi que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, les luttes qui se passent autour de l'affaire Adama et d'autres affaires malheureuses, il y a aussi, c'est le prolongement de cette histoire-là, avec une conscientisation politique, tant sur le plan associatif et militant que sur le plan politique, parce qu'il y a de plus en plus aussi de populations qui s'organisent dans des moments forts, locales comme nationales, comme régionales, pour aussi exprimer des choses qui leur sont chères et qui participent au développement de la société française dans le respect de sa diversité. Bon, j'y vais un peu à la hache, mais c'est pour dire que voilà, ce sont des moments importants et fondamentaux.
Oui, effectivement, à l'époque, le Front National, la quintessence de ce que pouvait être le racisme, parlait essentiellement de vagues migratoires, d'invasions arabes et de pigmentation. Mmh. Il était à l'époque question que ça. On me fait signe que avant de continuer, nous allons faire une petite coupure musicale. Samia.
Alors du coup, je vous propose d'écouter Mona Haidar qui, avec le titre « Wrap My Hijab ».
What the hair look like? Bet the hair look nice. Don't that make you sweat? Don't that feel too tight? Yo, what your hair look like? Bet your hair look nice. How long your hair is? You need to get your life. You only see Oriental. You steady working that dental. You popping up at the lip and run your mouth like a treadmill. Not your exotic vacation. I'm bored with your fascination. I need that paper, paper, paper if you want education. All around the world. Ladies, we was born in the 80s, so pretty like the Euphrates, and party like some Kuwaitis, deeper than some diplomas, current like some hot yoga, taking back the misnomers, and teleporting through trauma, teleporting through trauma, teleporting through trauma, I've been stacking my karma, Nefertiti, no drama, make a feminist planet, woman haters get banished,
covered up or not, don't ever take us for granted. All around the world, love women. These mixtures, these hippies, these prissies, these Sufis, these jetties, these Sunnis, these Sharis, Yemenis, Somalis, Libanis, Pakistanis, these Sudis, Sudanis, Iraqis, Punjabis, Afghanis, Yazidis, Khadijis, Indonesians, Egyptians, Canadians, Algerians, Nigerians, Americans, Libyans, Tunisians, Palestinians, hidden beyond the Mekong and Laos, Senegalese and Burkina Faso.
Vous écoutez toujours Micro-Ondes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Et là, maintenant, on va passer du troisième âge, en fait, du racisme, avec l'aspect religieux.
Merci, effectivement. La troisième ère, nous avons vu avec Pierre Didier, bien sûr, malheureusement, très rapidement, parce qu'on nous manquons de temps, l'époque du racisme culturaliste avec la haine du bico et du noir. Maintenant, nous allons voir que ce racisme, pour s'adapter, mute, et aujourd'hui on n'entend plus parler que de celui-là essentiellement, parce qu'il est plus... Il est plus quoi, Philippe ?
Moi, j'aimerais... ça m'a fait réagir, là, c'était justement les airs que Fanon propose, Franz Fanon propose, et bon, je suis d'accord sur le principe, il a théorisé quelque chose, mais j'aimerais soulever quand même un point, c'est qu'il y a eu la Saint-Barthélemy, hein, il y a eu la Saint-Barthélemy, et la Saint-Barthélemy, c'est des chrétiens contre des chrétiens. Et donc, est-on ou pas dans un racisme religieux ? Et il y a eu aussi y a eu d'autres phénomènes comme ça qui brouillent les cartes de ces airs, en fait. Et donc, je pense que ces airs sont effectivement des étapes théoriques, mais dans la pratique, et ça répond peut-être à la question, c'est dans la pratique, je pense que ce racisme, qui est un outil de domination, c'est tout simplement qu'il soit exporté à l'étranger ou qu'il soit utilisé sur un territoire, il est fonction de ce qui se passe en face. Et si il était un racisme anti-arabe ou anti-noir pendant 150 ans, et bon, beaucoup plus avant dans la monarchie, c'est d'autres formes de domination, d'autres formes de discours, mais si dans la République, il est un racisme anti-arabe ou anti-noir, et s'il se mute en racisme, entre guillemets, anti-religieux, en islamophobie, c'est que finalement la composante sociale sur laquelle il s'applique, elle a changé. Et je pense que c'est à double tranchant, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a une composante historique des immigrations qui sont venues d'Afrique globalement, majoritairement, on va dire, et donc dû à l'histoire, hein, décolonisation, bien sûr, et c'est un peu la revanche de l'histoire, on va dire. ces populations luttent pour des droits équivalents, effectivement, comme Pierre Didier l'a rappelé. Et non pas lutte pour que des gens les aiment ou des gens partagent et soient des frères, qu'ils les chapotent comme le Parti Socialiste a tenté de faire avec SOS Racisme en récupérant la marche des beurs et compagnie, mais ils luttent, ils s'organisent par eux-mêmes pour faire valoir une certaine histoire, une vision de l'histoire qui n'est pas valorisée, une vision de leur présence, une vision de tout simplement de leur humanité aussi. Et cette composante, elle a muté, elle est passée d'une identité nationale, une identité d'origine, de territoire, une identité de peuple, vers une identité finalement, comme Pierre Didier l'a dit, c'est-à-dire qu'en revendiquant la société française comme appartenance, elle a aussi bénéficié, il faut le dire quand même, du cadre de liberté que la société française peut offrir, et s'est réapproprié son histoire, parce que cette histoire, elle a été chaotique. Hein, quand on colonise un peuple pendant 300, 400 ans, qu'on détruit ses structures d'éducation, de langue, etc., comme ça s'est passé en Algérie ou au Maghreb en général, ou en Afrique noire, il y a un temps de récupération, un temps de réappropriation de cette histoire, de cette culture. Et c'est ce que font tous les pays colonisés dans le fin 19e siècle et le 20e siècle, c'est de se réapproprier leur culture. Et c'est là qu'on va voir émerger, parmi ces cultures possibles, parmi ces identités possibles, parmi ces pièces de puzzle qui existent dans l'être humain, qu'il soit en Orient ou aujourd'hui en territoire français, eh ben, la partie religieuse, tout simplement, la partie de spiritualité qui a été présente dans ces peuples et qui, ben, ces peuples étant ici, se réapproprient cette histoire et disent, ben, en fait, nous aussi, on revendique le fait d'être français socialement, politiquement, etc. Et aussi, ben, nous sommes des musulmans. On se réapproprie cette histoire. Et donc, cette partie de société a muté. Donc, la domination qui était en face, une domination anti-arabe, anti-noire, anti-immigrée de manière générale, ben, elle mute aussi. Elle se dit, ben voilà, maintenant, l'ennemi, c'est plus l'arabe. Le problème intérieur, c'est plus l'arabe. C'est pas l'arabité, c'est pas le noir, c'est pas le turc, c'est l'islamiste.
Oui, parce qu'en fait, ça fait première, deuxième, troisième, quatrième génération. Ouais. Est-ce qu'on peut encore considérer l'autre avec lequel on a grandi, avec lequel on était dans les mêmes écoles, les mêmes universités, etc., etc. Est-ce qu'on peut encore le considérer comme étranger, même s'il a une pigmentation un peu différente? C'est plus compliqué de nourrir un racisme en son sein, parce qu'il faut savoir aussi que pour qu'un État puisse rester colonial, parce qu'aujourd'hui, la France est toujours un État colonial. Hein. Mmh. On rappelle que sous le joug de la France, il y a 14 pays d'Afrique qui sont maintenus sous domination par le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc pour maintenir cet état de fait, il faut continuer à nourrir dans l'imaginaire de ces citoyens le fait qu'ils sont toujours quelque part une race supérieure et qu'il faut aller civiliser une race inférieure. Et quand on voit que l'arabe, le noir vivent avec nous et qu'ils sont en fait comme nous, il faut trouver une solution. Ouais, et c'est là où ce racisme,
comme discours, tu disais, tout à fait, mute. Ça mute et puis ça devient effectivement la fabrication d'ennemis de l'intérieur. Donc c'est la religion incompatible, c'est le voile non compatible avec les valeurs, c'est les pratiques religieuses, c'est la charia qui va supplanter la loi française, etc., etc. Tout un discours comme ça qui est et c'est pour ça qu'il y a de différenciation. Elle est quand même assez ténue, quoi. C'est la ligne, elle est fine entre l'islamophobie, on va dire, et le racisme culturel, parce que je pense que c'est un discours qui s'est, on l'a déjà dit dans des émissions précédentes, ça a déjà été dit aussi par des sociologues, c'est un discours, l'islamophobie, qui est parti des extrêmes pour se manifester dans tous les partis politiques traditionnels, y compris ceux de gauche, et surtout ceux de gauche d'ailleurs qui instrumentalisent la laïcité, qui aiment bien parler d'universalisme et de laïcité, et des choses comme ça, qui se regorgent de, comme que c'est des vrais républicains, des vrais humanistes, des vrais laïcs, etc., etc. Puis les autres ont toujours des problèmes avec ce genre de choses. Ouais.
Mais cet ennemi de l'intérieur qui est l'islam, le musulman, quel intérêt la France a-t-elle de l'avoir en interne, si ce n'est pour justifier tout le fléau qu'elle mène actuellement, comme les guerres à l'extérieur? Parce qu'à l'époque, on disait les Noirs, les Arabes, il faut les civiliser, donc le franc CFA, c'est pour les aider. Mais aujourd'hui, qu'on mène des guerres en Libye, des guerres en Syrie, des guerres au Yémen, etc., etc., est-ce qu'il n'a pas été nécessaire pour cette société capitaliste impérialiste de faire muter le discours et pour justifier ces guerres contre les barbares musulmans en face, de créer aussi un ennemi intérieur?
C'est possible, je ne pense pas que la France ait eu besoin de faire ça, parce que je pense que tout État est quelque part, et tout peuple est prisonnier de son histoire. On ne peut pas infléchir l'histoire du jour au lendemain, on ne peut pas infléchir, il n'y a pas de baguette magique politique. Je pense que ça peut rejaillir, le discours de la politique extérieure, comme on dit, peut rejaillir sur la politique intérieure, mais je pense que... ok. Et non, je pense que ce fameux ennemi intérieur... il n'y a pas eu besoin de l'islamophobie pour combattre les pays arabo-musulmans, ni d'Afrique noire. Il y en a eu besoin au 19e siècle pour théoriser le racisme. Aujourd'hui, les guerres coloniales et pour le capitalisme n'ont pas besoin de théorie, elles sont de facto.
Elles sont de facto, mais elles ont besoin que leurs citoyens accompagnent ce mouvement.
Je suis désolé, excuse-moi de te couper, mais le citoyen ne sait pas ce qui se passe en Afrique.
Oui, c'est vrai.
On pleure les militaires qui sont morts dans les accidents d'hélicoptères, mais que fait la France au Mali?
C'est une vraie question. Malheureusement, le temps qui nous est imparti arrive à sa fin, je crois.
Oui.
Un dernier mot, s'il vous plaît, si vous avez envie.
Oui, il y aurait, mais il y a pas mal de matière. Moi, ce que je constate, c'est que les citoyens aujourd'hui, alors la situation des citoyens, elle est contrastée. Les citoyens ordinaires, je parle, parce que le citoyen est mieux éduqué, plus érudit, va chercher ses informations lui-même, va les recouper, etc. Et puis il y a aussi une partie des citoyens qui restent encore conditionnés, un peu structurés par les médias officiels, etc. Donc quand même, ça donne une situation contrastée, mais qui montre que il y a un vrai intérêt pour des questions comme la laïcité inclusive. Il y a aussi des vrais mouvements d'intérêt par rapport à l'islam et à ses valeurs, à ses principes, etc. Et ça, je pense que c'est important aussi à regarder de près. Et puis enfin, la société française est beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus apaisée d'un certain côté. Et moi, je le vois par rapport surtout aux jeunes générations, par rapport aux anciennes. Donc tout ça montre à la fois des inquiétudes, mais aussi nourrit des espoirs qu'on aille vers quelque chose de beaucoup plus positif.
Philippe Robin, un dernier mot ?
Rapidement, je vais essayer. Ouais. Je pense que, comme j'ai dit, les composantes sociologiques, elles changent mais il y a quand même un adage qui reste, c'est le dominant qui choisit les armes de résistance du dominé, en quelque sorte. Aujourd'hui, la lutte contre l'islamophobie, la lutte contre le racisme, elle s'accentue. C'est pour ça que on a encore de plus en plus d'islamophobie. On va jusqu'aux actes. On va aujourd'hui. Le discours que tu disais tout à l'heure, le Front National disait dans les années 80, ce discours raciste. Aujourd'hui, l'islamophobie, c'est Monsieur Tout le Monde, c'est Monsieur le Média, le présentateur de télé qui va. Lui, c'est open bar, quoi. Il se lâche. Tout est possible. C'est plus le Front National qui parle. Donc, pourquoi et qu'est-ce que ça cause ? Ça cause une organisation, une recrudescence de résistance. Comme j'avais dit dans la manifestation de manière ironique et humoristique, j'avais dit merci Julien Odoul, l'élu du Front National, là tu fabriques des militants, c'est bien, tu fabriques des résistants. Plus tu insultes, plus tu... etc. Bon, c'est une boutade bien sûr, mais oui, il y a le dominant fabrique les méthodes de résistance, et les résistances sont politiques. Les résistances sont politiques contre l'islamophobie et le racisme, et je pense qu'il y a beaucoup de liens qui sont en train de se faire. On parle de violences policières, on parle de racisme, on parle d'islamophobie, on parle des quartiers populaires qui s'auto-organisent politiquement. C'est pas un état dans l'état, hein. On parle d'organisation politique, on parle de discours historiques, on parle de choses comme ça. Donc c'est ça qui est en train de se faire, et c'est ce qui n'est pas acceptable pour le dominant. Voilà.
Merci. Du coup, malheureusement, on manque de temps. Il va falloir qu'on passe à la suite du programme de l'émission. Mais j'espère que vous serez encore nous pour la semaine prochaine, l'émission de la semaine prochaine. On pourra continuer de développer tout ça. Et du coup, on va passer maintenant aux brèves. Et alors, les brèves, on va commencer avec une petite brève sur la résolution Maillard.
Effectivement, la résolution Maillard qui a été votée le 3 décembre, qui consiste simplement et purement à concaténer, à amalgamer deux mots opposés, différents tout du moins, à savoir antisionisme et antisémitisme. Aujourd'hui, les deux sont amalgamés. Il faut savoir que c'était une réclamation du CRIF, à savoir aussi Netanyahou d'Israël, auprès de M. Macron. M. Macron l'a fait. Aujourd'hui, critiquer Israël, c'est-à-dire un État raciste, un État impérialiste, un État qui mène des guerres, qui tue, qui colonise et qui massacre, ça revient à de l'antisémitisme. Et c'est grave, c'est une liberté que nous perdons encore, donc restons vigilants et organisons-nous.
On va passer ensuite à une brève sur les différentes perquisitions qui ont eu lieu dans différents lieux à Grenoble. Alors, pour ça, je vais vous lire un communiqué du centre social autogéré Tchoukar, le 38. Voilà, et puis qui explique un peu ce qui s'est passé. Alors, ce matin, le mardi 26 novembre, une nouvelle vague de perquisitions a frappé plusieurs lieux de l'agglomération grenobloise, avec comme prétexte l'enquête concernant les incendies volontaires ayant eu lieu ces deux dernières années dans la région. Parmi eux, le centre social autonome du 38 rue d'Alembert à Saint-Bruno. Pendant plusieurs heures, une dizaine de fourgons de CRS a bloqué une partie de la rue, pendant qu'à l'intérieur était saisi tout le matériel informatique, d'impression et les lettres de soutien de nos voisins voisines. Nous n'avons eu droit ni d'assister à la perquisition comme témoin, ni d'avoir accès à la commission rogatoire qui la justifie. Cette opération d'intimidation vise à affaiblir les personnes et les lieux qui luttent à Grenoble. Elle a permis à la police de prendre des photos, recenser, ficher les personnes militantes et leurs proches, de récolter des ADN dans des lieux et sur les gens, et souvent de force. Elle a aussi servi de prétexte à répertorier et envoyer en centre de rétention une petite dizaine de personnes sans papier, dont certaines n'étaient pourtant que voisines du lieu perquisitionné. Au-delà de ces faits, l'attitude policière a été sans surprise largement transphobe et raciste. Ces perquisitions ne sont qu'une des facettes de l'arsenal répressif qui s'étend depuis quelques années. État d'urgence permanent, interdiction de manifester, violence policière, guerre aux migrants-migrantes et justice toujours plus expéditive. En réalité, si nous sommes aujourd'hui attaqués, c'est en raison de nos engagements politiques et sociaux. Depuis le 38, se réunissent et s'organisent déjà de nombreux collectifs militants tels que les Gilets jaunes, les Jeunes pour le Climat, les Rosa Parks musulmanes, les collages contre les féminicides. Parmi autres grévistes ou initiatives libertaires, attaquer le 38, c'est non seulement mettre en péril les possibilités de lutte qu'il permet, mais aussi fragiliser les liens de solidarité que nous construisons au quotidien depuis 5 ans à travers nos activités. Cantines, ateliers, magasins gratuits, dojos, etc. Concrètement, ce dont la police nous prive aujourd'hui, ce sont de moyens d'organiser matériel, c'est-à-dire de quoi communiquer, écrire et diffuser nos propres informations. Ailleurs, cette opération piétine des lieux de vie et envoie des personnes en centre de rétention globalement. Il s'agit d'asseoir une autorité sur celles et ceux qui sont réfractaires. Nous ne nous laisserons pas impressionner. Le 38 continuera à être un espace d'organisation politique et à exprimer des solidarités avec celles et ceux qui luttent et à participer à la vie du quartier Saint-Bruno. Nous reconstruisons nos portes cassées et nous acharnerons encore plus à tisser des liens, produire des contre-discours et construire notre autonomie politique et matérielle. D'autres paroles collectives viendront compléter ce récit ces prochains temps. Signé le 38. Ensuite.
Suite simplement une petite brève du coup par rapport notamment à une personne qui s'est immolée devant le Crous de Lyon qui a tenté de se suicider à ce moment-là. Et voilà, du coup on a un petit témoignage qui vient parler de ça. Voilà, on l'écoute tout de suite.
Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses ce soir. On est là parce que un étudiant, un camarade, un ami a tenté de s'immoler par le feu samedi, jeudi dernier, devant le Crous de Lyon, parce que ses conditions de vie étaient devenues insupportables. C'est un geste qui a été motivé, comme il dit, par sa précarité, mais aussi par les politiques qui sont menées depuis une cinquantaine d'années, autant celles qui détruisent nos solidarités que les politiques racistes, xénophobes. Ses camarades de Lyon ont écrit un communiqué de presse que je vais vous lire du coup. La précarité détruit nos vies. Depuis hier après-midi, un de nos camarades et amis est entre la vie et la mort à l'hôpital. En grande précarité financière, privé de bourse, désespéré, il s'est immolé par le feu devant le bâtiment du Crous de Lyon. Nous n'avons pas suffisamment de mots pour crier notre douleur et notre tristesse. Notre dégoût aussi, à l'égard de ces institutions qui l'ont poussé à l'irréparable, comme il l'a expliqué dans un message poignant. Car ce sont bien ces institutions inhumaines, cette précarité, cette violence trop commune que l'État et l'université exercent contre les étudiants, dans l'indifférence générale, qui ont guidé son geste, profondément politique, acte désespéré. Elles sont à ce titre responsables et coupables. Nous pensons à lui et ses proches, sa famille, ses amis. Nous attendons et espérons sa réémission pour retrouver, parmi nous dans nos luttes, ce camarade et son sourire. Syndicaliste impliqué, toujours prêt à aider les autres, chaleureux et humain. Pour reprendre son message, vive le socialisme, vive l'autogestion, et vive la sécu. Nous t'aimons. Dans la lettre qu'il a publiée, notre camarade explique clairement les raisons de son acte. La grande précarité dans laquelle il se trouve et dans laquelle se trouvent de nombreux étudiants et étudiantes. Mais il dénonce aussi les responsables politiques qui organisent cette précarité généralisée. Comme beaucoup d'étudiants et étudiantes, sa bourse lui a été refusée par le Crous, le mettant dans une situation intenable. Ce contexte de précarité quotidienne, d'une grande violence, touche beaucoup trop d'étudiants. Le Crous est une institution censée soutenir financièrement les étudiants et aujourd'hui elle cherche la rentabilité. Cette logique de libéralisation des marchandises et des services publics est promue depuis des décennies par les gouvernements successifs. Elle a aggravé la précarité des étudiants et étudiantes de façon plus générale, retiré des droits, précarisé les travailleurs et les travailleuses, les chômeurs, les chômeuses. Notre camarade évoque aussi le racisme et le fascisme croissant aujourd'hui en France. Les violences racistes institutionnelles et médiatiques ont des conséquences matérielles et psychologiques concrètes sur les personnes qui les subissent. Honte à celles et ceux qui, juste après son acte, se sont interrogés sur sa nationalité et se sont permis de douter de ses intentions. Aujourd'hui, nous réclamons une prise de position publique et officielle de la part de Frédéric Vidal, qui pour l'instant est toujours silencieuse. Nous sommes en colère de l'indifférence froide de l'État face à nos souffrances, et cette indifférence tue et tuera, encore si rien n'est fait. En tant que syndicalistes, des personnes dans la situation de notre camarade, nous en rencontrons tous les jours. Nous appelons le gouvernement à prendre des mesures d'urgence, la réquisition de logements vides, le déblocage de fonds d'urgence pour aider les étudiants et les étudiantes les plus précaires. Nous sommes bouleversés, mais surtout en colère. Il faut un changement immédiat et radical. Il faut que ça cesse. Merci.
Et voilà, malheureusement, le temps étant trop court, on ne pourra pas entendre la fin de ce reportage. On l'écoutera du coup sur le podcast, voilà, avec du coup d'autres témoignages d'étudiants et d'étudiantes précaires notamment. Voilà. On passe à l'agenda, Yvon ?
Oui. Mais d'abord, l'actualité brûlante, c'est la mobilisation sur la contre-réforme des retraites et au-delà, contre les attaques du gouvernement sur le système social, les services publics. Bon, soyons très conscients des dangers graves que cette réforme nous fait courir. Après le succès de la mobilisation de jeudi dernier, le 5, dans toute la France, de nombreuses initiatives sont prévues. À Grenoble, deux manifestations sont déjà confirmées et d'autres sont en discussion. D'abord, aujourd'hui même, à 14h, c'est-à-dire dans quelques minutes, mais enfin on peut arriver un peu en retard, à la gare de Grenoble, à l'initiative de très nombreuses organisations et des Gilets jaunes, vous avez le temps de la rattraper, donc c'est tout sur ce sujet-là, bien sûr. Mardi prochain, mardi 10 à 13h30, également à la gare de Grenoble, cette fois-ci à l'initiative de l'intersyndicale, avec la participation attendue de nombreux et nombreuses grévistes. Et par ailleurs, jeudi 12 à 17h30, devant le rectorat, un rassemblement est prévu à l'initiative notamment des syndicats d'enseignants pour défendre le droit à l'éducation des migrants et migrantes, avec le slogan notamment « Une école, un toit, des papiers ». Et mercredi 18 à 13h30, manifestation de la préfecture au Jardin de Ville en soutien aux migrants et migrantes, à l'appel du DAL, de la CISEM et d'autres organisations. Et alors avec les thèmes « Pour l'égalité des droits, la régularisation des sans-papiers et contre les discriminations racistes ». Au moment où le gouvernement durcit encore sa politique migratoire, avec notamment un refus d'accès, c'est grave, à la santé pour tous, pour toute une partie des migrants. Donc le slogan principal, c'est « Personne n'est illégal ». Et je crois que là-dessus, Baptiste, tu voulais ajouter quelque chose ?
Bon, simplement pour dire que du coup, il y avait donc à Grenoble, pendant pratiquement 6 mois, des personnes qui dormaient sous un pont proche de la gare, qui ont été expulsées il y a maintenant 2 semaines à Grenoble. Et toutes les personnes n'étaient pas initialement relogées. Il y avait à peu près un relogement pour 2/3 des personnes, 25 personnes restaient à la rue. Et suite à une lutte, du coup, finalement, les personnes qui devaient repartir l'après-midi même sans aucune solution, ont finalement été relogés à Vorep. Et voilà, mis à part aujourd'hui 2 personnes qui aujourd'hui ont été remises à la rue et 4 autres personnes qui ont été mises en centre de rétention administratif. En tout cas, pour les autres personnes, voilà. Du coup, c'est pas une très bonne nouvelle, mais c'est quand même mieux que ce qui était promis par la préfecture. Voilà, c'est juste un petit bilan de cette journée-là.
Alors j'enchaîne sur, je vais essayer d'aller très vite, hein, puisque le 9 décembre, c'est à être lundi, à 20h, à la Maison du Tourisme à Grenoble, c'est la rencontre avec le collectif pour la gratuité des transports publics qui se bouge déjà depuis des années, avec quelques succès. Le vendredi 13, 19h, à la Maison des Associations de Grenoble, c'est un meeting unitaire de solidarité avec la Catalogne, avec une autrice de Catalogne, La République libre en un.
Donc c'est une initiative Ensemble, NPA, CIP, etc., Solidaire. Et enfin, dernière chose pour aller très vite, le 19 décembre à 16h à la MJC des Eaux Claires Grenoble, c'est sur la mobilisation très importante et populaire en Algérie actuellement avec l'idée qui est dans l'air, la grève générale. Donc grève générale, beau slogan pour la fin.
Génial, merci, c'est donc déjà la fin. Cynthia, un dernier mot ?
Bah non, c'est tout. J'allais dire merci aux invités d'être venus. J'espère qu'on se retrouve encore la semaine prochaine. Et puis du coup, on va...
Sur ce qui a été dit sur l'expulsion, enfin l'opération sur les camps, là, faut savoir que la même opération a été faite dans plusieurs villes de France au même moment. Hein. C'est un truc conjoint, national, c'est pas que notre préfecture, c'est vraiment à Lyon ça a été fait, etc. Avec toutes les... Voilà, c'est juste un petit détail pour rappeler. Que
mais notre préfet n'est pas le dernier non plus.
Non, mais c'était vraiment bien concerté, attention, c'est la chasse aux tentes.
Ok, merci pour cette précision. Et du coup, on va se quitter.
Merci à vous d'être venus.
Merci.
Merci. Merci.